Alors là, on peut revenir sur l'idée du festival. Pour vous, c'est la deuxième édition. Et le titre, qui est toujours un peu paradoxal, bien sûr, on pense à Houellebecq, extension.
L'extension du domaine de la note, qui était un très beau titre, effectivement, inventé par David, qui était effectivement inspiré de Houellebecq et qui n'est finalement que extension. Mais je trouve qu'effectivement, c'est très intéressant. L'extension du domaine de la note, c'est aussi quelque chose de très, très fort pour la musique. C'est-à-dire que on peut penser la musique, mais ça, c'est une dialectique qui ne fait que continuer celle de Schaeffer. C'est-à-dire que la question de la note, effectivement, en musique, quoi qu'en pense Pierre Boulez ou qu'en pensait Pierre Boulez, n'est pas le tenant, l'alpha et l'oméga de la musique. En musique, il y a plein d'autres paramètres et qui sont extrêmement importants. La question de la nuance, la question du timbre, évidemment, et la question du sonore, elle est revenue en premier plan au XXe siècle. On a évoqué Varèse tout à l'heure, mais toute l'histoire de l'électroacoustique est également fondée sur une pensée nouvelle de la matière sonore qui passe notamment par la question du timbre. Et aujourd'hui, toutes ces références-là, en fait, ont un petit peu éclaté à travers l'extension, pour revenir justement au sens même du festival, l'extension des pratiques. C'est-à-dire que la question de l'écriture, en fait, arrive à une espèce de paradoxe, parce que soit les musiques sont beaucoup trop complexes, en fait, pour être écrites, donc elles doivent être communiquées autrement. Les timbres, évidemment, ne sont pas écrits, ne sont jamais écrits. Il y a énormément de dimensions, en fait, qui sont trop fines aujourd'hui, notamment par rapport aux musiques électroacoustiques, pour être écrites. Donc la question qui était la sacralité de l'écriture issue du 19e siècle, avec le compositeur Demiurge qui, par sa seule pensée, pouvait créer un monde de papier. Aujourd'hui, en fait, c'est largement effrité. Et donc, on est dans quelque chose qui est en train de se réinventer. On est dans une époque qui est finalement peut-être terriblement baroque et en même temps qui, je trouve, est passionnante. Parce qu'en même temps que s'effondrent effectivement les politiques publiques, en même temps émergent de nouvelles énergies et de nouvelles dynamiques. Donc ça, c'est plutôt réjouissant. Et Extension, modestement, essaie de témoigner de cette dynamique-là.
Et alors, elle présente dans beaucoup de lieux. J'ai vu Palais de Tokyo, c'est déjà le cas précédemment. Comment en arrive-t-on maintenant? Son identité, je crois que le mot identité est toujours un peu méfiant, un peu dangereux même.
Surtout si elle est nationale. La question de la multiplicité des lieux, c'est effectivement une problématique complexe, surtout pour la question du public que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir un public, de renouveler les publics quand on n'a pas d'activité régulière dans un lieu. Et c'est quelque chose qui pour moi est important dans le projet que je mène à la Muse, c'est d'essayer le plus possible de créer du rendez-vous et de créer en fait une habitude esthétique et géographique. Parce que les deux en fait permettent à ce moment-là de créer une identité ou en tout cas une visibilité à un événement. Alors la collaboration avec 2E2M, rue de Madrid est évidemment évidente. On essaie de travailler régulièrement avec le Palais de Tokyo, le Collège des Bernardins où nous étions, le couvent des Bernardins et où nous étions hier aussi, et un partenaire de plus en plus régulier, le Triton, le Carreau du Temple. Tout ça, ce sont des lieux en fait qui effectivement se cristallisent autour du festival, mais avec lequel on a des concerts en fait tout au long de l'année. Donc c'est cette espèce de logique-là que j'essaie de suivre tant bien que mal, en espérant que ça fonctionne toujours dans une nouvelle dynamique de public. Mais pour l'instant, je suis très content parce qu'effectivement, ça semble marcher.
Il y a une thématique ou est-ce que c'est une autre manière de concevoir l'idée de la thématique? Qu'est-ce qui fait la ligne de force?
Je ne sais pas. Et la question de la thématique, il n'y en a pas en fait, parce que j'assume totalement la subjectivité effectivement du choix des différents programmes. Je crois que les programmes se font dans les faits assez rarement en fonction de thématiques. Je préfère ne pas prendre l'excuse de la thématique pour dire non à certains projets et assumer le fait qu'en fait, il s'agit surtout de problèmes de production. C'est-à-dire qu'on ne peut faire un projet que quand on trouve la bonne adéquation entre la question du lieu, de la production et du public, et que c'est pas honteux de dire ça, parce que on parle d'un centre national de création musicale, la Muse en circuit, qui ne fonctionne qu'avec de l'argent public, et que cette question du service public, elle est absolument essentielle, et qu'elle se pose aussi par la question de l'utilisation de cet argent public. Donc quand on essaye de monter un projet, il y en a trop que j'aime. C'est-à-dire que si je disais uniquement j'aime ou j'aime pas, ce serait d'abord impossible, parce que la majorité des projets qui m'arrivent, en fait, je les trouve souvent assez extraordinaires. La réalité, c'est que j'ai soit pas les financements suffisants pour les faire, qu'il faut que je trouve un partenaire pour le faire avec, que je trouve le lieu et la date pour que ça puisse fonctionner aussi par rapport au public. Enfin, c'est toute cette alchimie-là, en fait, qui consiste à faire qu'un festival, à mon sens, fonctionne. Donc, je préfère assumer, effectivement, cette petite cuisine qui n'a pas de grande valeur artistique, mais qui, à mon avis, manque un petit peu en musique. C'est-à-dire que pour revenir, effectivement, à la question politique et à la question du spectacle vivant, on a souvent une vision un petit peu lointaine de la question de la production, de la question de la façon dont se font les choses. Et je pense qu'on a intérêt à y revenir en période de crise.
Donc, ça serait une définition à partir de la production ?
Non, c'est pas uniquement de la production, mais simplement ces différents éléments effectivement qui rentrent en compte. Après, dans le projet que je mène pour la Muse, il y a évidemment une place plus importante faite à différentes pratiques. La question de l'improvisation, évidemment, la question du spectacle, la question des musiques électroniques et de l'électronique live, comme on dit, de l'interprétation électronique, la question du bruit, mais à travers de façon élargie. Mais quand je définis effectivement ces lignes de force, effectivement, pour les esthétiques que je défends, je tiens à préciser que c'est surtout pas dans la question de l'exclusion des autres esthétiques. C'est-à-dire que je crois, par goût et par conviction politique, qu'il faut que la Muse s'inscrive plus spécifiquement dans cette dimension-là. Mais après, c'est pas parce qu'on défend la création musicale qu'on est obligé de cracher sur la pop musique. C'est pas parce qu'on fait du rock qu'on est obligé de cracher sur le jazz. C'est-à-dire que je crois pas, effectivement, qu'on doivent rester dans cette dialectique d'opposition et de mépris à l'égard de ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire que j'essaie de défendre ce qui me paraît être important aujourd'hui dans la création musicale, sans être systématiquement dans une dialectique de rejet et d'exclusion ou de mépris à l'égard des autres musiques.
Donc une logique plutôt inclusive ?
Inclusive, j'aurais un petit peu peur effectivement de l'amalgame de force. Non, la question effectivement, ne serait-ce que par rapport aux musiques actuelles, c'est-à-dire je trouve que c'est très important de réinterroger effectivement notre histoire et notre héritage. Dire que la création musicale ne s'inscrit que dans la continuité des musiques classiques, je trouve que c'est extrêmement problématique quand on est au troisième millénaire. Ce qui s'est passé au XXe siècle, à travers l'histoire du jazz et l'histoire du rock, est absolument fondamental pour la musique. Et que cette histoire-là, si on s'inscrit uniquement dans la reproduction du quatuor à cordes et de l'orchestre, il va nous manquer quand même quelque chose, ne serait-ce que sur la richesse musicale, qui est essentielle. Donc cette question du croisement et de l'influence effectivement des musiques actuelles, moi mais particulièrement cher par goût, mais aussi par conviction qu'effectivement ces musiques-là ont été trop méprisées. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire d'orchestre, mais ça veut dire par contre qu'à mon sens, effectivement, il faut une vraie politique de rééquilibrage entre la question du patrimoine et la question de la création. La question de la création, elle ne va pas s'inscrire uniquement dans un orchestre moribond issu du 19e siècle et dont les instruments n'ont quasiment pas bougé. C'est-à-dire que c'est une aberration musicale quand même de voir un instrument comme le piano, qui a quand même quasiment 150 ans d'immobilisme total au niveau de la facture de l'instrument. Dans l'histoire de la musique, il n'y a jamais eu d'instrument qui restait figé pour toujours. Et je ne crois pas qu'il y ait d'arbre à violon. C'est-à-dire que l'instrument violon est un instrument technologique. Les technologies évoluent et les instruments, on peut les faire évoluer. Pourquoi est-ce que nos formes classiques d'instruments restent figées dans une tradition soi-disant excellente ? Les gens de la musique baroque ont bien prouvé qu'il y avait de l'excellence à réutiliser d'autres techniques qui sont parfois plus anciennes. Je trouve que c'est toujours effectivement dans cette alternance des différentes technologies, qu'elles soient anciennes, qu'elles soient récentes, dans cette mixité aussi des différentes pratiques, que souvent on réinvente de belles recettes musicales.
Mais est-ce qu'on peut définir une ligne de force dans l'édition de cette année du festival ?
Grand mal à le dire, en fait, et je chercherai pas à avoir une cohérence. En fait, je suis absolument pas gêné que puissent cohabiter effectivement un Luc Ferrari et un Pierre Henry, qui sont dans des pratiques assez différentes, bien que partageant un grand esprit de liberté, avec Julien Després, qui avec son travail extraordinaire sur la guitare électrique est complètement dans un autre monde. Pour moi, ces choses-là, justement, cohabitent de façon naturelle, et le fait qu'il n'y ait pas de cohérence forcément esthétique ne dit pas qu'il n'y a pas de cohérence historique. Et je crois vraiment que ces musiques-là, justement, émergent parce qu'elles sont l'histoire de plein d'expériences différentes, et que cette richesse-là, j'ai pas à en chercher effectivement des passerelles pour les souder de force. Elles peuvent vivre effectivement de façon autonome et de façon libre, et je trouve que c'est très bien comme ça. Parce que quand je parle de la question du plaisir, ou quand je parle de la question des publics, il s'agit pour moi jamais, surtout jamais, de ne défendre la facilité ou la démagogie. C'est-à-dire qu'on peut faire des musiques qui sont extrêmement radicales, extrêmement difficiles. La noise japonaise qui envoie des murs de son à 120 décibels, elle est extrêmement violente, et pourtant, eh bien, il y a un public qui peut apprécier cette musique-là par simple plaisir, pas en se déconstruisant quelque chose d'un geste musical et en l'analysant sous toutes ses coutures. Les musiques de Raphaël Sandeau ou de Franck Bedrosian peuvent être extrêmement complexes sur l'écriture et sur la perception, effectivement, qu'il y en a, mais en même temps, elles donnent du plaisir. Moi, j'ai du plaisir à écouter certaines pièces qui ont des voix de polyphonie jusqu'à 20. Donc, c'est pas la question du cérébral qui a été un peu trop mis en avant, effectivement, dans nos musiques, et pas, à mon sens, la meilleure façon d'approcher la musique en général, et surtout pas un nouveau public.
Alors, je vais peut-être finir sur une dernière question. Vous êtes à Alfortville. Et comment fait-on? C'est la banlieue, Alfortville, le Val-de-Marne. Bon, c'est un département, je crois, qui fait beaucoup d'efforts pour la culture. Mais comment s'installe-t-on? Comment vit-on dans un lieu de cette nature?
Très bien. D'abord parce qu'on a la chance effectivement d'avoir un local qui est extrêmement équipé. Donc on a deux salles de répétition et trois studios. Donc on est vraiment un des centres nationaux de création musicale les plus équipés de ce point de vue-là. Ensuite à Alfortville et plus généralement le département du Val-de-Marne est effectivement un département extrêmement dynamique sur le plan culturel. Donc on vit aussi au sein d'un réseau de scènes de l'émergence musicale qui est très dynamique, que ce soit, on a la chance d'être à côté du théâtre studio avec lequel on travaille régulièrement, qui est un petit bijou de théâtre dans lequel on fait plein d'expériences musicales, mais on travaille également régulièrement avec le Générateur ou avec Anigra. Donc il y a tout un réseau effectivement de lieux sur le Val-de-Marne qui permet effectivement de développer une politique culturelle forte, une proposition forte. Et puis il y a bien sûr aussi la MAC de Créteil avec lequel on travaille régulièrement et puis qui est pour moi un modèle de scène nationale, c'est-à-dire que ces scènes généralistes qui trop souvent font un peu le catalogue redoute de la création et présentent des spectacles en fait sans trop se poser la question de la prise de risque. Et bien là, on a une scène nationale dirigée par Didier Fusillé depuis longtemps, qui a toujours exploré, à travers notamment le Festival Exit, la recherche la plus pointue sur la question avec le numérique, mais plus généralement sur la question artistique, et toujours dans la préoccupation d'un élargissement des publics. Ce qui fait qu'il peut y avoir au Festival Exit 100 000 personnes sur 10 jours, avec une fréquentation de jeunes et de moins de 25 ans qui est absolument colossale. Pour moi, c'est un modèle auquel je veux continuer de croire.
Une dernière, ultime question. Vous allez vers les écoles ?
Énormément, oui. Sébastien Béranger, qui s'occupe de la pédagogie et dont on fera une monographie dimanche également, est très très actif avec toutes les branches de l'éducation nationale, du collège au lycée, avec les écoles supérieures également. Mais cette année, on a commencé dans le cadre de la réforme du temps scolaire à monter des ateliers aussi pour l'école primaire. J'ai demandé essayer de développer vraiment une approche nouvelle de la pédagogie aussi, ce qui remette le corps au cœur de la pratique musicale. Parce que on a une histoire effectivement issue de l'IRCAM, notamment de l'informatique musicale. Encore une fois, je suis passionné par cette pratique-là, mais je pense que c'est délicat de parler d'informatique musicale en fait à un public qui ne connaît pas forcément nos musiques. Je pense qu'il vaut mieux prendre un petit gobelet et commencer à travailler sur cette question du bruit et expliquer effectivement quels sont les différents intérêts qu'il peut y avoir à parler avec ce type de son. Et que à ce moment-là, quand on met 50 gobelets comme ça à des enfants et qu'on commence à créer des espèces de rythmiques extrêmement brutistes et extrêmement complexes avec cette chose-là, ben on parle immédiatement en fait à l'oreille et au cœur des enfants en disant c'est bizarre, évidemment. Notre musique est souvent effectivement bizarre, mais elle est extrêmement séduisante rapidement, à la fois dans la question du son, dans la simplicité de mise en œuvre, et aussi dans la question de l'espace. Et je pense que c'est mieux de passer effectivement d'abord par ces choses-là pour ensuite arriver à la synthèse avec des petits synthétiseurs ou avec d'autres objets, et ensuite progressivement avancer effectivement sur la question des outils qui ont tendance à créer une distance ou un éloignement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus compliqué qu'un violon. C'est-à-dire que c'est difficile de donner un violon à un enfant et lui dire voilà, il faut, c'est ça, la musique, c'est ça. Pour sortir un son d'un violon, il faut y passer des heures. Et avant que ce soit agréable, il faut y passer des années. La musique qu'on pratique permet de rentrer dans la question du son de façon beaucoup plus immédiate. C'est une problématique importante parce que tout d'un coup, on sort effectivement du rapport habituel à la question de la technique. Et en même temps, c'est une question qui est passionnante parce qu'elle décloisonne beaucoup plus qu'aucune autre musique avant elle.
Merci, Wilfried.
Merci à vous.